Bonjour, c'est Juliette Dechance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je donne aujourd'hui le micro à une ou un coach de la communauté Chance pour explorer ensemble une notion de coaching, pour vous aider à prendre conscience de vos mécanismes, de vos blocages ou encore de vos croyances limitantes. C'est ce que nous faisons chaque jour avec les personnes que nous accompagnons dans le parcours Chance. Nous souhaitons aussi aujourd'hui le partager avec vous. Vous écoutez, et sinon, le boulot ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question.
Bonjour, je suis Renaud Fulconis, coach partenaire chez Chance. Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux psychologiques. Dans jeux psychologiques, il y a jeux. Pourtant, les jeux psychologiques n'ont pas la légèreté d'un jeu de société en famille ou entre amis. Ils sont décrits par le psychiatre canado-américain Eric Berne, père de l'analyse transactionnelle, dans son livre « Des jeux et des hommes », paru en 1964. Dans ce livre, Berne illustre les jeux de 36 manières différentes, et d'autres ont été décrits depuis. Pour faire simple, disons qu'il s'agit d'un échange à double fond entre deux ou plusieurs personnes. L'une d'elles formule son propos, mais en réalité, elle veut dire autre chose. On dit encore que cet échange se produit à deux niveaux. Le niveau social, ce qui s'entend, et le niveau psychologique, ce que la personne veut vraiment dire. Les jeux n'apportent en général rien de bon, et leur issue, qui s'apparente à un coup de théâtre, nous laisse au mieux dans l'inconfort, mais peut aussi renforcer notre sensation de mal-être. Leur fonctionnement est toujours le même. Le jeu commence quand une personne tend un appât, que l'on appelle un attrape-nigo, et invite une autre personne à jouer. Cet appât vise chez l'autre un point faible. Si l'autre répond, le jeu s'engage. Il se produit plus tard un déclic quand l'un des joueurs s'offusque. S'ensuit alors un moment de stupeur quand en retour l'autre joueur se sent blessé, offensé. Les bénéfices négatifs pour les deux concluent le jeu. Ils permettent à chacun de confirmer les croyances négatives sur soi, les autres ou le monde dans son ensemble. Nous jouons également pour satisfaire nos besoins de reconnaissance et de maintenir notre position de vie existentielle. Un sujet abordé par Meige dans un épisode précédent de ce podcast. Si je ne parviens pas à obtenir les signes de reconnaissance positifs dont j'ai naturellement besoin, je vais chercher à obtenir des signes de reconnaissance négatifs qui sont mieux que rien. Dans le cadre du parcours Chance, Sophie m'a confié souffrir de ne jamais obtenir de reconnaissance de son manager, ni même de ses collègues. Aucune reconnaissance pour l'énergie dépensée pour le bien-être de l'équipe. Aucune non plus pour son dévouement à son travail. Elle a ensuite réalisé qu'en se dévalorisant auprès de moi en séance et de ses collègues dans son entreprise, elle nourrissait un besoin psychologique. Si l'agacement qu'elle générait par ses plaintes était inconfortable, c'était cependant un signe de reconnaissance. Et mieux vaut une reconnaissance négative que d'avoir l'impression de ne pas exister. Il s'agissait pour Sophie de conforter une ou plusieurs de ses croyances limitantes, comme celle de considérer qu'elle ne vaut pas grand-chose, que les autres seront toujours mieux et réussiront toujours bien mieux qu'elle. Le jeu psychologique était alors aussi pour elle un moyen de répondre inconsciemment au stress qu'elle subissait, sans doute la majorité du temps. Il lui permettait de ne pas avoir à exprimer ses émotions, et notamment sa colère et sa peur. En jouant, Sophie s'assurait qu'on s'occupe d'elle, sans avoir à affronter l'angoisse. Jouer était devenu dans son rapport aux autres le principal moyen d'occuper son temps. Le psychiatre américain Stephen Karpman, disciple d'Eric Berne et analyste transactionnel, propose une lecture complémentaire des jeux psychologiques avec le triangle dramatique. Par l'illustration des tragédies, Karpman considère que nous entrons dans le jeu psychologique à partir de notre rôle préférentiel, celui de persécuteur, de victime ou de sauveur. Luc, que j'ai accompagné il y a quelques mois dans le cadre du parcours Chance, a reconnu dans nos échanges un rôle récurrent de persécuteur. Il a saisi à quel point il se l'était approprié dans son cadre professionnel. Les exigences disproportionnées et la pression considérable qu'il mettait sur son plus proche collaborateur lui permettait de renforcer son sentiment de supériorité. Cela pour compenser en réalité son manque de confiance en lui et son impression d'insécurité. Alors le persécuteur blâme, rabaisse, critique. En apparence, la personne se considère en position supérieure. Pour le persécuteur, le responsable de sa frustration, c'est l'autre, et il est donc normal de lui faire payer. Sa position de vie est « ok plus, ok moins ». J'ai de la valeur, toi, tu n'en as pas à mes yeux. La victime, illustrée par Sophie, se sent inférieure et se croit incapable de résoudre les problèmes par elle-même. Elle rejette la cause de ses malheurs sur autrui et n'exprime pas spontanément ses désaccords. Elle est incapable de dire non et sa position de vie est « ok moins, ok plus ». Je ne vaux pas grand-chose, les autres valent plus que moi. Le sauveur, enfin, pense que les autres ne peuvent s'en sortir sans lui. Il cherche une personne à aider, sans même que l'autre ne formule de demande pour cela. Il est donc à l'affût de celles et ceux qui apparaissent faibles ou incapables de s'en sortir seuls. Sa position de vie est « ok plus, ok moins ». Cependant, les rôles peuvent changer entre les personnes au cours d'une même discussion. Une victime qui se sent oppressée par la présence du sauveur pourra finir par dire « Oh, laisse-moi, je t'ai rien demandé !» passant alors dans le rôle du persécuteur. Le sauveur, passant à son tour dans le rôle de persécuteur, pourra répondre
« Quoi ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?»
Bien sûr, nous jouons tous, et notre lieu de travail est un terrain favorable au jeu psychologique. N'oublions cependant pas que le jeu ne sert jamais la relation d'une manière positive. Alors comment arrêter de jouer ? Premièrement, en étant vigilant. Se sentir mal à l'aise dans une discussion est la représentation d'un jeu psychologique. Identifiez alors le rôle qui est le vôtre. En prenant la responsabilité de vos actions et de vos choix, vous considérez que vous avez de la valeur et en accordez à l'autre tout autant. Le meilleur moyen de ne pas subir les effets négatifs du jeu psychologique est de ne pas jouer. Fixez vos limites. Dites non si vous pensez non et ne laissez personne vous manquer de respect. Personne. Le jeu ne favorise pas les relations sincères. Alors exprimez clairement et d'une manière authentique vos besoins et vos émotions et donnez à l'autre la possibilité de faire de même. Allez maintenant à vous de jouer. Jouez à identifier les jeux et à refuser de jouer. Jouez à vous respecter et à respecter l'autre. Vous verrez, cela change la vie.
Merci d'avoir écouté « Et sinon, le boulot ça va ?» le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance-fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt !